7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, visitez l'Afrique. Deux touristes sur trois ayant visité l'Afrique subsaharienne l'année dernière étaient originaires du continent. Parmi eux, surtout des touristes d'affaires qui en profitent pour découvrir un pays ou encore des familles qui viennent visiter des parents. Alors, quels atouts, quels freins pour le tourisme en Afrique? On parlera des visas, du terrorisme, du manque d'infrastructures. Nous allons en discuter entre autres avec la blogueuse camerounaise Diane Audren Gakou. Bonjour.
Bonjour.
On est ravis de vous accueillir en direct chez 7 milliards de voisins. Diane Audren, vous avez créé la plateforme collaborative Visiter l'Afrique. Vous êtes de passage à Paris, dans un pays où vous êtes née. Est-ce que vous redécouvrez la capitale avec un œil de touriste africaine maintenant que vous vivez au Cameroun ?
Alors, je suis née au Cameroun à Douala, mais j'ai grandi en France.
Et c'est arrivée vrai. Toute petite.
C'est vrai, je suis arrivée toute petite et j'adore. J'adore parce que je redécouvre Paris différemment. J'adore voir aller à la Tour Eiffel. Manger des frites
et reparti au Cameroun il y a combien d'années?
Je suis rentrée au Cameroun il y a 2 ans. Ça va faire 2 ans.
Visiter l'Afrique est une plateforme qui a maintenant 4 ans.
C'est ça.
Les internautes vous connaissent bien, les auditeurs aussi, et bien évidemment, ils vont pouvoir dialoguer avec vous sur ce tourisme sur le continent africain. Également avec nous Jean Taglang, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président de Point Afrique depuis 1996. C'est une coopérative centrée sur la bande sahélienne qui est bien en difficulté avec le tourisme maintenant. Vous êtes en liaison avec nous grâce aux moyens techniques de France Bleu Alsace. Et quant à vous les voisins, racontez-nous vos plus belles expériences, vos plus belles découvertes sur le continent, paysages, culture, moments partagés. Nous attendons vos témoignages. 33 1 84 22 71 71. C'est aussi notre numéro de téléphone WhatsApp. Et puis dites-nous ce qu'il faudrait pour réellement lancer le tourisme en Afrique. Vos messages également postés sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter. Sur les réseaux sociaux, les voisins sont enthousiastes. Mijo est à Pointe-Noire au Congo-Brazza. Il nous dit « Moi, j'ai visité le Gabon avec mon frère. J'étais anxieux parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur ce pays. Nous sommes finalement partis en train. Ça a été enrichissant de découvrir une autre culture. Didi est au Mali. J'ai commencé à visiter le Mali. J'ai pas terminé. C'est un grand pays. Il y a beaucoup de choses à voir. J'aimerais voyager, visiter le plus de pays africains possible. » Merci est à Goma en RDC. Il nous dit qu'il a visité ce grand et beau pays qu'est le Rwanda. Pas très loin de Goma, hein, je crois. Même pas quelques minutes de voiture pour passer la frontière. J'ai beaucoup aimé car l'environnement est magnifique et les transports pas chers du tout. Et c'est vrai que c'est un très beau pays, le Rwanda. Abdoul au Cameroun nous dit « Je suis un étudiant tchadien au Cameroun. J'en profite pour visiter Yaoundé, la capitale. Le climat est parfait. » D'accord, pas d'accord avec tous ces messages, Diane Audren.
D'accord, et je suis très contente de voir des Africains justement qui ont envie de découvrir déjà leur pays.
Une curiosité, un appétit.
Tout à fait.
Aucun doute. Vous nous appelez maintenant sur WhatsApp 33 1 84 22 71 71. Enfin, je dis WhatsApp, mais aussi si vous n'avez pas l'application WhatsApp, bien évidemment, c'est un téléphone comme un autre. On attend vos appels.
7 milliards de voisins, de voisines, 7 milliards d'êtres humains, tous identiques, tous différents, appelés à vivre sur une toute petite planète, 7 milliards de frères et de sœurs.
Diane Audren Gakou, depuis l'ouverture de votre plateforme, de votre site internet collaboratif Visiter l'Afrique, quelles évolutions en 4 ans? Qu'est-ce qui a bougé dans les mentalités?
Il y a 4 ans, quand la plateforme a été créée, elle a été créée parce que je trouvais qu'il y avait très peu d'informations sur le continent pour les passionnés de tourisme et que c'était plus facile de trouver une information pour aller à Lisbonne, pour aller à Londres, pour aller à New York, pour aller à Dakar, à Abidjan ou même Nairobi. Et je me suis dit qu'il était important de créer un endroit, un espace où toutes les personnes qui auraient visité le continent pourraient partager leur expérience, déjà pour rassurer les voyageurs, parce que nos États déjà n'ont pas spécialement de sites attractifs qui mettent en avant leur destination. Donc si vous tapez le nom d'un pays, malgré toute la motivation pour aller faire un safari peut-être au Kenya ou en Tanzanie, mais qu'en tapant, vous avez plus d'infos sur l'actualité du pays qui n'est pas spécialement la plus joyeuse, vous allez avoir un frein, même si votre rêve c'est de faire un safari. Alors qu'avec Visiter l'Afrique, vous avez des voyageurs qui vous ressemblent. des femmes, des hommes, des enfants, des adolescents qui racontent leur voyage et vous pouvez vous identifier. Et il y a ces personnes que vous pouvez contacter. On essaie toujours de mettre leur adresse email ou leur page, leur réseaux sociaux. Vous pouvez les contacter et leur poser des questions et créer du lien. À l'époque, quand on a créé la plateforme, on s'est beaucoup appuyé sur Instagram parce qu'on s'était rendu compte que l'image était très importante.
Bah oui, pour le tourisme et la découverte, c'est d'abord l'image. C'est ça qui donne l'envie, c'est quand ça même, qui déclenche. Hein.
C'est ça. Et on est passé notamment de 0 abonnés à 130 000 abonnés sur Instagram en 4 ans. Et ce qui était assez intéressant, c'était qu'on avait des photos pas très top au début. Et qu'aujourd'hui, quand vous regardez le hashtag ou dièse visiter l'Afrique, vous voyez des photos incroyablement faites par des personnes qui utilisent leur smartphone. Si vous mettez la Mauritanie, une personne du Tchad va dire « Mais moi aussi, je dois prendre une très belle photo de Djamena. » Une personne de Bamako va faire exactement la même chose.
C'est la surenchère, exactement.
C'est la surenchère et c'est ça qui...
Il y a une créativité incroyable sur le compte Instagram. Ça, il faut le reconnaître. Hein. Jean Taglang, sur le déficit d'informations sur le continent africain.
Oh, c'est évident. C'est pas simplement inter-africain, c'est aussi entre l'Afrique et l'Europe.
Oui, hein,
je pense que, en plus, ici, vous tapez tourisme en Afrique, vous essayez d'inciter des Européens à aller actuellement en Afrique, vous avez que des avis ou des impressions négatives.
Oui, en des zones rouges.
Des zones rouges. Et justement, on en parlera tout à l'heure de l'influence de ces zones rouges, mais on pense à Point Afrique, et ça depuis l'origine, que ces zones rouges sont à l'origine d'une véritable mise à l'écart de populations entières. Et c'est vrai pour les Européens qui veulent aller en Afrique, mais c'est vrai aussi dans les pays africains entre eux-mêmes. Parce qu'une zone rouge, lorsque c'est la France qui le dit, on se dit c'est vrai, c'est dangereux. C'est très très dangereux.
Comment est interprétée, alors bien sûr on va reparler de la sécurité, mais elle ne concerne pas tout le continent africain. Comment est interprétée globalement, Diane Audren-Gacko, la notion de tourisme aujourd'hui chez les Africains? Parce que chez les Européens, il y a quand même une dimension un peu oisiveté. Hein. On est loin du devoir familial quand on va voir des parents pour assister à des cérémonies familiales. Et c'est souvent une des premières raisons, avec le tourisme d'affaires, qui pousse une famille à quitter son domicile pour aller dans le pays voisin, dans la région voisine, Diane Audrey.
Alors, je pense que en France, la majorité des personnes vont faire le camping. Au Cameroun ou dans d'autres pays africains, le camping n'est pas la mode, en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on fait naturellement. Donc ça veut dire que dès que vous pensez déjà voyage, vacances, vous voyez déjà la notion de moyen, être dans un hôtel. Et les hôtels, de par le manque d'infrastructures, sont relativement chers. Ensuite, vous pensez potentiellement à la famille, mais la famille n'a pas toujours l'espace. Et dans ce cas, ça devient un frein et vous vous dites donc finalement, je n'ai pas les moyens, je reste. Et quand même la question de moyens se présente, vous voulez aller à Dubaï, vous voulez à Paris, vous voulez aller ailleurs. Mais aujourd'hui quand même, on remarque sur le continent qu'il y a une nouvelle vague de jeunes Africains qui veulent déjà connaître qui ils sont. Et connaître qui ils sont, c'est connaître d'où ils viennent.
Bien sûr.
Avant justement d'aller explorer, explorer le monde.
Mais alors ceci dit, quand on regarde à l'échelle internationale les destinations les plus choisies, si on regarde les classements du Conseil mondial du voyage et du tourisme ou le classement de la BAD, on s'aperçoit que ce ne sont pas forcément des pays qui accueillent beaucoup de touristes africains. Je prends le Maroc, première destination du continent, l'Égypte, l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Zimbabwe, la Namibie, la Tanzanie, l'île Maurice, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas finalement deux Afriques du tourisme. Une Afrique pour les Occidentaux, celle que je viens de citer, n'est-ce pas, Jean Taglang, hein, et une Afrique pour les Africains, je ne sais pas.
Oui, moi je serais un peu plus réservé sur cet aspect
des choses. Hein, c'est une question que je me pose.
Oui, c'est une question. Je pense qu'il y a deux formes de tourisme. Il y a une forme de tourisme qui est ce que j'appellerais moi un tourisme business, hein, qui consiste à équiper toute une série de régions, d'hôtels de luxe ou pas de luxe, de clubs, etc., destinés à faire venir le maximum de personnes possible. C'est une forme de tourisme qui n'est pas du tout la nôtre, hein, vous le dites tout de suite. Et vous avez une forme de tourisme qui, elle, procède d'une démarche tout à fait inverse et qui relève d'une volonté des populations. C'est-à-dire que si vous avez dans des pays des populations qui souhaitent et qui demandent à ce que le tourisme soit intégré dans un facteur de développement économique, à ce moment-là, vous avez une toute autre attitude et des touristes qui viennent et des populations qui les accueillent. Mmh. Je crois que les deux, on peut pas séparer
Le tourisme doigt de pied en éventail, mer soleil, et puis une tourisme découverte culturelle à la rencontre de l'autre.
Voilà.
Mais Diane Audrey Ngakho, là-dedans, où s'insèrent les Africains à la découverte de leur propre continent?
Alors, je vais prendre l'exemple de deux pays que vous avez cités, le Maroc, qui aujourd'hui a créé un observatoire pour donner justement envie aux Africains d'aller découvrir la destination, notamment avec leur compagnie aérienne. Ils se sont rendus compte justement que beaucoup d'Africains faisaient juste un stop à Casablanca pour ensuite aller...
C'est un hub des compagnies d'aviation.
Exactement. Mais ils ont créé trois observatoires, dont la vraie base est basée à Dakar. Et par exemple, moi, il y a 3 mois, ils m'ont fait voyager pour aller découvrir la destination, pour montrer que du Cameroun au Maroc, on pouvait faire beaucoup de choses. Donc il y avait vraiment une volonté. Parce que ce qu'il faut savoir, et c'est ce que Tunisie...
Pour l'instant, les Africains que vous croisez au Maroc, ce sont des étudiants qui sont venus étudier au Maroc.
C'est vrai, c'est aussi un tourisme. Hein.
Mais c'est aussi un tourisme, c'est vrai que quand on a quelques jours de libre et un petit peu d'argent, on en profite pour découvrir le pays dans lequel on étudie.
Mais quand on regarde le cas de la Tunisie, par exemple, on se rend compte que suite à tout ce qu'ils ont vécu, le tourisme intra-africain a été important, notamment aussi via le côté religieux. Donc après les derniers attentats, ils ont ouvert la gratuité du visa à 8 pays africains. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en tant qu'Africains, on connaissait on était moins à même d'écouter les stéréotypes que les Occidentaux pouvaient avoir, notamment sur nos destinations.
Jean Taglang ?
Oui, là je partage un peu ce qui vient d'être dit. Et sur le devenir du tourisme africain lui-même, inter-pays Afrique, je crois que la première chose, c'est l'émergence d'une classe moyenne africaine. C'est un des facteurs qui pourra nourrir ce tourisme.
Évalué à peu près 140 millions de personnes, mais tout dépend de ce qu'on met dans définition de la classe moyenne.
Voilà, mais je veux dire, il y a aussi une question de revenus. Hein, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Vous faites du tourisme quand vous pouvez en faire. Si vous voyagez pour d'autres motifs, c'est un peu différent. Mais il me paraît important de dire que le tourisme inter-africain se développera si les pays qui accueillent mettent en place des structures qui lui permettent de se développer, y compris en termes de coûts. Hein.
Y compris aussi la question des visas que vous évoquiez, Diane Audrey
Ngakho. Et des règles, et de toutes les règles administratives d'une manière générale.
Hein. Justement, vous nous appelez les voisins et les voisines, je vous redonne notre numéro de téléphone, WhatsApp ou téléphone, la ligne normale, 33 1 84 22 71 71, c'est le même numéro. On passe le message posté par une auditrice, justement, et qui évoque aussi la question des visas.
Bonjour les voisins, bonjour les voisines. Pour le tourisme africain, je pense qu'en termes de dépaysement et d'émerveillement, c'est un tourisme comme les autres. Personnellement, j'ai pu découvrir des cultures, des paysages différents. En Afrique, on a la chance de ne pas avoir à faire de visa pour pas mal de pays. C'est un gros atout. Et l'autre atout majeur, c'est que c'est un tourisme qui peut coûter très peu d'argent. Pour le reste, tout va dépendre de vos envies personnelles en tant que voyageur ou en tant que visiteur. Je retourne bientôt au Ghana, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Les freins, j'ai beaucoup de chance, j'en ai pas encore connu. Ça a toujours été un plaisir d'échanger avec des gens disposés à vous renseigner sur les endroits que vous pouvez voir. Faut juste les préparer à l'avance, comme ça ils voient l'intérêt que vous avez pour eux. Merci RFI, bonne journée à tous.
Bonne journée à vous Diomandé, elle nous appelait de Côte d'Ivoire. Alors évidemment c'est vrai que le Ghana c'est une destination sexy, on fait bien la fête au Ghana quand on est en Côte d'Ivoire. Il y a plein de choses à faire, mais sur la question des visas, il faut quand même bien le préciser, ça n'est pas si simple. La quasi-totalité des pays de l'Union Européenne, eux, n'ont pas besoin de visa pour aller en vacances en Afrique du Sud, alors qu'on a 25 pays africains sur 54 qui ne peuvent pas se passer de visa pour la même destination, l'Afrique du Sud par exemple.
Et c'est super compliqué notamment en tant que Camerounaise, avoir le visa pour aller en Afrique du Sud.
Et pas que en Afrique du Sud pour vous, non? Pour bon, vous avez double nationalité, Diane.
La double nationalité n'existe pas au Cameroun.
Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Donc vous n'êtes que Camerounaise, du coup?
Donc voilà, c'est ça. On peut pas jongler.
Oui. Non, mais sur la question des visas, c'est un vrai problème pour les touristes africains sur leur propre continent, Diane Audrey Ngakho?
Oui, c'est le parcours du combattant. le parcours du combattant. Par contre, ce qui est bien avec certains États comme le Rwanda, où maintenant on n'a plus besoin de visa, la Tanzanie et le Kenya, c'est qu'on peut voyager. Et lorsqu'on arrive sur place, la paperasse n'est pas très compliquée.
Au Rwanda, le nombre de touristes intra-régionaux a doublé en 8 ans. Effectivement, ça veut dire qu'on se dirige vers des tourismes de zone comme ça sur le continent africain.
C'est ça, c'est ça. Et quand j'échange beaucoup avec certains Africains aujourd'hui, on va sur Internet, on regarde les pays où notre passeport nous permet d'aller sans souci. Au Cameroun, ça va être Singapour, Jamaïque, Brésil. En ayant choisi cette destination, parce que même pour aller au Maroc, c'est pas évident, quoi.
Jean Taglang, évidemment, là, il y a une vraie inégalité par rapport aux Occidentaux.
C'est une inégalité qui traduit aussi l'inégalité entre les États eux-mêmes. C'est-à-dire, les États tentent de se protéger de quoi ? Des risques liés à l'insécurité, parce que tout est aussi lié. C'est-à-dire que tant que vous aurez des zones d'insécurité fortes, les pays limitrophes auront tendance à fermer leurs frontières, y compris aux nationaux venant de ces pays. Donc je crois que tout, mais absolument tout, repose sur la mise en place de systèmes de sécurité qui soient d'une part efficaces et qui permettent des échanges complets entre tous les pays sans qu'il y ait besoin de sans cesse s'interroger sur les conditions dans lesquelles on va pouvoir le faire. Mais alors, ça, c'est un problème qui dépasse le seul secteur touristique.
Bien sûr. Alors, évidemment, vous évoquiez l'insécurité. On ne peut pas faire cette émission sans parler de l'insécurité. Vous restez avec nous, Jean Taglang. Dans quelques instants, on entendra un extrait du circuit que vous proposez, que Point Afrique propose en Mauritanie, parce que la Mauritanie est une destination qui vient de rouvrir ses portes pour quelques touristes. Ça sera juste après Imaran. Touareg Imaran chez 7 milliards de voisins sur RFI. Nous sommes en direct du lundi au vendredi. Voilà les découvertes musicales en Tamashek. Là. Ça peut aussi être une raison de voyager, de découvrir d'autres pays, d'autres cultures. Alors, il nous faut bien sûr parler du terrorisme, de l'insécurité sur le tourisme en Afrique, puisque notre émission est consacrée à ce sujet. Voyager, découvrir l'Afrique, visiter l'Afrique. Le tourisme en Mauritanie peut-il renaître de ses sables ? Après des années de menaces terroristes, un circuit dans la Drar mauritanien est de nouveau possible. Ce morceau de Sahara était fermé aux voyageurs depuis 2007. Il était classé en zone rouge par le ministère des Affaires étrangères après l'assassinat de 4 touristes français près d'Alègue. 10 ans plus tard, décembre 2007, la coopérative de voyageurs Point Afrique, en collaboration avec les autorités mauritaniennes, relance la destination en affrétant son premier vol de la saison grâce à Maurice Freund, son fondateur. fondateur qui s'est battu pour rouvrir la région aux voyageurs. On va en discuter avec vous, Jean Taglang, mais écoutez tout de suite le témoignage de Mahmoud, aubergiste à Shingeti, 7e ville sainte de l'islam, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je ne sais pas si vous avez visité Shingeti ou pas, Diane Audrey. Pourtant, vous avez beaucoup, beaucoup visité sur le continent. Et donc, cette ville est située sur les plateaux désertiques de la Drar. Raphaël Constant l'a rencontré dans son auberge, l'Éden, en boubou bleu et blanc. Il raconte l'évolution du tourisme dans un des plus beaux déserts du monde.
Moi, je m'appelle Mohamed Mahmoud Oldbeja, un aubergiste de Shingeti depuis presque 28 ans que je suis dans le domaine du tourisme. Donc c'est une auberge que j'ai construite en 2005. En 2005, le tourisme a été bien développé, il y avait beaucoup de monde, il y avait au moins 45 auberges à Shingeti, ses environs, et il y a beaucoup de monde qui vient de partout. Et tout le monde était heureux, content, tout le monde investit, acheter de terrain, creuser des puits, planter des palmiers, des petites auberges. Les artisans profitaient, les nomades, les chameliers, tout le monde. C'est un domaine où que toute la famille trouve son boulot. On était gâtés, donc tout le monde investit. Il y en a qui ont été des commerçants, mais en même temps, ils ont investi dans les domaines de tourisme. Certains même, ils ont vendu leur maison. Ils ont abandonné leur boulot dans des grandes villes pour venir investir dans les domaines de tourisme parce qu'ils ont trouvé que c'est l'économie la plus simple, facile. Et puis, un seul coup, tout était arrêté. 2007, le Quai d'Orsay a décidé de donner la région de la Drar zone rouge. Nous, ici, on n'a pas compris pourquoi les tourismes sont arrêtés. Les nomades disaient, mais comment, Mahmoud, comment fait-il que tous les jours, on a des mairies, des tobabs qui viennent de partout, et un seul coup, ils sont arrêtés en disant que nous, on a des terroristes, qu'on enlève les gens, qu'on tue les gens. On n'a jamais tué quelqu'un, on n'a jamais enlevé. J'ai dit non, pas du tout. C'est un scandale qui s'est passé vers le fleuve, à 1800 km d'ici. À Drar, il n'y a aucun touriste mort. Je ne parle pas des frontières, Mali, Algérie, Niger. Les frontières, c'est toujours depuis même très longtemps. C'était des zones de trafic, des zones de particuliers. Mais c'est ces zones-là, nous, ça ne nous intéresse pas, comme ça n'intéresse pas aussi les touristes. Donc, touristes qui viennent ici pour la culture du pays, pour le désert, pour la population. Il y a 10 ans, on était jusqu'à 5000 habitants à Shingeti. Et quand le tourisme aussi arrêté, il y a des familles qui sont parties dans les grandes villes pour chercher d'autres solutions de vivre. On a eu juste 2500 habitants.
Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à Drar. Il est midi 5 et la température est de 20 degrés. Votre ceinture doit rester attachée jusqu'à l'arrêt complet de l'avion à son parking et l'extinction de la consigne lumineuse. L'équipage ASL Airlines est heureux de vous accueillir sur ce vol, tout spécialement affrété par Point Afrique, et souhaite avoir le plaisir de vous recevoir à nouveau. Au revoir, très bonne journée et très bon séjour. Nous vous souhaitons de belles randonnées sur Drar.
Et après, que maintenant, quand tout le monde était au courant que les charters se reprennent le mois de décembre, il y en a même qui sont commencés à venir avant. S'installer dans leur place et tout ça, c'est préparé à l'avance. Des nomades qui ont été abandonnés, qui sont commencés à revenir de nouveau acheter les chameaux parce qu'ils savent que c'est le premier qu'il faut travailler. Les aubergistes qui ont déjà commencé à réhabiliter, nettoyer, entretenir leurs auberges. Et donc maintenant, on a vu qu'on est dépassé 3000 habitants. Donc, à mon avis, on va encore commencer de nouveau.
En 4 mois, il y a déjà 1000 habitants qui sont revenus.
À peu près. Je ne m'inquiète pas pour les Sahara, vraiment, aucun souci pour notre désert, notre Sahara, notre habitants et tout ça. On va dans, mashallah, des bons sens. La paix est là, et il suffit que les gens viennent. Donc j'espère que ça développe encore plus la région, plus qu'avant. J'espère que tout le monde trouve leur place, mais il suffit qu'on voit encore plus du monde encore pour qu'on reste, pour qu'ils nous fixent dans nos régions et qui nous fixe dans nos coins désertiques.
Jean Taglang, vous êtes vice-président du Point Afrique. On entendait cet aubergiste à Shingeti, cette ville qui s'est vidée de ses habitants et qui se repeuple petit à petit. On voit bien l'incroyable lien entre la vie locale et puis le tourisme, si petit soit-il d'ailleurs.
Oui, si petit soit-il, mais il faut savoir que la Drar est une région de Mauritanie qui a une certaine surface importante et qui est très peu peuplée. Vous avez en tout environ 65 000 habitants dans la Drar, pour une population de 4 millions d'habitants à peu près en Mauritanie, dont le tiers habite à Nouakchott d'ailleurs. Et c'est le gros problème qu'il y a eu avec la disparition du tourisme, c'est que les gens sont repartis
allait peupler les bidonvilles de Nouakchott, puisqu'il n'y avait plus d'activité sur Tshingeti. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 2005-2006, le PNUD a fait une évaluation sur l'évolution de la pauvreté à Tshingeti et de l'influence du tourisme sur l'évolution de ce taux. Et il a pu constater que le taux de pauvreté était passé de plus de 50% à environ 25%. Donc on voit, là c'est simplement un chiffre qui parle et qui crève l'écran, je dirais. Ça veut dire simplement que l'impact du tourisme, aussi petit soit-il, dans ces zones-là, a des conséquences énormes. Ça fait revenir des familles entières, ça permet d'entretenir, parce que le désert s'entretient, hein, si vous partez, s'il n'y a plus de population, les oasis disparaissent, sans sable, etc. Vous avez donc des jardins qui sont recréés, qui fournissent la nourriture pour les touristes, ouais. Vous avez des chameliers, vous avez des éleveurs, il y a tout un système économique qui se remet en place et qui fait que les gens reviennent. Et ça, c'est important aussi pour ces pays. Et c'est pour ça que
Et qui permettent de faire vivre aussi un patrimoine culturel, alors, finalement.
Permettent de faire vivre un patrimoine culturel, parce que je suis persuadé que si le tourisme ne reprenait pas sur Tshingeti, les trésors culturels de cette ville ou de Wadan ou d'autres villes de Mauritanie auraient pu disparaître, faute de moyens et de personnel sur place.
Alors, Diane Audrey Ngako, vous voulez réagir ?
Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que Jean Taglang vient de dire, justement. Et je voulais revenir sur le témoignage de cette personne qui a dit que les événements qui ont eu lieu en 2007 se sont passés à 1800 kilomètres. Oui. Et c'est un peu ça, en fait. Je pense qu'on ressent ça avec la question de terrorisme, ou même avec Ebola à l'époque. C'était de se dire que...
Pour le Cameroun, vous voulez dire
Même pour le Cameroun. Même au Cameroun, aujourd'hui, avec le problème, la crise anglophone,
Et la menace Boko Haram au nord,
qu'il faut prendre en considération. Mais malheureusement, heureusement, quand vous êtes à Douala, à Yaoundé, à Kribi, à Limbé, à Boya, des zones touristiques, vous ne le ressentez pas. Donc vous êtes un peu frustré si vous êtes un hôtelier ou un aubergiste. Et je pense que c'est aussi le rôle des États de prévenir, de parler. Et souvent,
d'informer en toute transparence.
En toute transparence. Oui. Et je pense que si peut-être l'État de Mauritanie avait dit et avait situé le problème en disant que, en effet, il y a eu un problème à 1800 km de la zone, mais à Tshingeti.
C'est que l'État de Mauritanie l'a fait. Il n'a... Alors, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a en Mauritanie un gouvernement et un président qui s'est depuis l'origine battu contre le classement en zone rouge, en expliquant très bien qu'il n'y avait aucune insécurité dans la zone de Tshingeti, qu'il n'y avait jamais eu le moindre incident. Maurice Freund s'est battu avec lui pour faire modifier la position de l'ambassade de France sur le tracé de cette zone rouge. Et ce n'est que grâce à l'intervention, finalement, du général Foucault avec Maurice Freund et Jean-Marie Bockel, d'ailleurs le sénateur du Haut-Rhin, qui était commission de la Défense nationale du Sénat, que finalement le ministère des Affaires étrangères a fait modifier ce classement en 2017.
Ouais. Donc, il faut faire de la géopolitique quand on fait du tourisme.
Il faut faire de la géopolitique, mais il faut bien comprendre que les décisions... Là, il s'agit simplement de fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères qui tracent du rouge sur une carte. Tracer du rouge sur une carte, ça veut dire exclure. Ça, c'est... J'exclus. Mais on n'exclut pas tout le monde. On exclut les visiteurs, on exclut les touristes, mais certainement pas les sociétés, les grosses sociétés. Total a pu s'implanter, a pu continuer ses activités dans le secteur sans jamais être inquiété, et ainsi de suite. Donc, je pense que on ne peut pas dire que le gouvernement de Mauritanie n'a pas tout fait pour déclasser et réouvrir cette zone. Il a tout fait.
Alors,
et si le tourisme a redémarré, c'est parce qu'il y a une volonté et du gouvernement, parce que sans sa volonté, il n'y a rien qui se passe, c'est sûr, et parce qu'il y a une volonté extraordinaire des populations locales.
Et des touristes pour revenir. Sont les motivations des touristes occidentaux pour voyager en Afrique hors des sentiers battus? Parce que la Mauritanie, c'est quand même une destination hors des sentiers battus. Marie Toumit, 40 ans, touriste française, a participé au circuit d'une semaine qui était organisé donc par Point Afrique, Panorama de la Drare, en 4x4, avec 6 autres touristes, très confidentiels, accompagné d'un guide, deux chauffeurs, un cuisinier, en montant les dunes de sable jusqu'à la passe de Tifoujar. Elle a confié les motivations de son voyage à Raphaël Constant, qui elle aussi était du voyage.
Bon, vous êtes prêts, vous avez de l'eau sur vos petits sacs à dos, vous avez tout ce qu'il faut.
Merci
beau quand on se retourne.
Ouais. C'est vrai qu'on se demande comment l'homme fait pour vivre dans un paysage comme ça, mais tout sec, tout aride.
Pourquoi t'as choisi de venir en Mauritanie, toi, Marie ?
En fait, j'en avais beaucoup entendu parler par mes parents, qui avaient fait ce type de voyage plusieurs fois à la fin des années 90, au début des années 2000. Et là, j'ai vu que les vols repartaient. Et je me suis dit que c'était la bonne opportunité d'aller voir cet endroit dont j'ai entendu parler et qui est fascinant et qui me fascinait. Après un premier moment, on est un peu époustouflé parce que tout est immense, tout est aride, on est dans un endroit d'extrême. Je pense qu'il faut aussi un petit peu de temps pour savourer, pour apprendre à aimer, parce que là, c'est beau, c'est saisissant. Je pense qu'après, on aime ça différemment petit à petit.
Et t'avais pas d'appréhension à venir après 10 ans de fermeture ?
Alors ça, non. Je me suis quand même un peu renseignée sur ce qui se passait géopolitiquement dans le coin, un peu où on en était. J'ai eu quelques petites remarques d'un genre un peu intrigué, interloqué. Soit parce qu'ils ne savaient pas qu'effectivement ça avait rouvert, soit parce que effectivement Mauritanie égale Acmi, égale danger, quoi. Au-delà du danger du désert. Donc effectivement, ça a surpris quelques-uns, ça en a fasciné d'autres.
Et qu'est-ce que tu penses de cette action justement de Maurice Freund qui a tout fait pour rouvrir l'Adrar mauritanien ?
C'est vrai que c'est un travail acharné apparemment, de ce que j'ai pu en voir. La fermeture de la destination a ramené de la pauvreté, alors que ça avait fait mieux vivre pas mal de monde la décennie précédente. Donc ça peut être que positif, surtout que dans un monde globalisé où les gens... Il y a plein de gens qui quittent leur pays pour arriver en Europe pour plein de raisons. C'est bien aussi d'aller dans ces pays-là pour qu'eux puissent continuer à vivre dans ces pays. C'est un tout petit pas, c'est une goutte d'eau, mais je pense que ça y contribue un peu, quoi. Les Mauritaniens, je pense qu'ils sont mieux à vivre chez eux. Ils partent pas pour le plaisir d'aller dormir sous des ponts à Paris.
C'est important que ce soit ces mêmes populations locales qui nous fassent découvrir ce désert.
Oui, tout à fait. Que ce soit avec notre guide Sid Ahmed ou... les chauffeurs, parce qu'un petit groupe de 7 personnes, comme ça fait travailler 4 personnes directement. Et sans doute plus, entre ce qu'on consomme, la petite vendeuse que l'on croise, qui on n'achète pas toujours, mais bon, ça fait du plus. Après, je pense pas que ce sera une destination avec des millions de personnes. Jamais. C'est ce que je l'avais dit à mes collègues. Ma motivation principale, c'était de voir le Sahara. Mais ça contribue, le faire dans ce contexte, etc. C'est important. Pas avoir besoin de s'exiler, de travailler, de mettre en valeur leur lieu de vie, de le montrer à des gens qui ont envie de le voir. Je pense que c'est positif.
Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce reportage sur la page de l'émission Si loin, si proche sur RFI avec beaucoup de photos. Les photos sont époustouflantes à propos de cette destination, la Mauritanie. Le point Afrique, Jean Taglang a été le pionnier d'une certaine conception du tourisme responsable. À l'époque, le mot n'existait pratiquement pas d'ailleurs.
Ça n'existait pas, hein, oui.
Alors qu'est-ce qu'on disait en fait ? Ce tourisme en fait, très, très simple, pas forcément bon marché pour les voyageurs, mais très très simple.
Oui, alors c'est un tourisme extrêmement simple. La première idée, c'était, et qui date bien avant Point Afrique, puisque Point Mulhouse, Point Afrique est le successeur de Point Mulhouse, qui avait été créé par Maurice Freund sous forme d'association, et qui a été une association qui a grandi, et qui a ouvert la première destination charter long courrier entre la France et l'Afrique, puisque c'était Ouagadougou. Donc, Ouagadougou, du temps du colonel de Thomas Sankara, qui a été très proche et qui a permis de développer le tourisme au Burkina Faso de manière très très forte et de manière très très responsable. Et le point au Burkina Faso, le point Mulhouse, a investi dans le premier campement hôtelier autogéré, je dirais, qui est devenu ensuite un campement de formation à l'agroécologie animé par Pierre Rabhi. Pierre Rabhi a travaillé donc pendant un certain nombre d'années avec le Point Mulhouse sur le Burkina Faso, et les résultats les produits du tourisme permettaient de financer les formations des agriculteurs locaux. à l'agrobiologie et à la culture, en particulier avec un minimum d'eau, ce qui était important dans ces zones désertiques, bien sûr. Voilà, donc simplement pour dire que Point Mulhouse a été un précurseur, et Maurice Freund, qui est à l'origine de tout ça, a repris dans la création de Point Afrique en 1995-96, avec l'ouverture des lignes sur Gao au Mali, puis sur Atar en Mauritanie, ensuite sur l'ensemble des zones de
la zone sahélienne. Évidemment, aujourd'hui, vous conservez la Mauritanie, c'est tout.
Ben aujourd'hui, alors, ce qui est très fort, ce qui est,
c'est très symbolique. En quelques mots juste, parce qu'on a des auditeurs qui veulent s'exprimer.
Oui, c'est très symbolique, parce que la Mauritanie, c'est la première partie du Sahara qui se rouvre au tourisme, la toute première. Donc, vous imaginez bien que les pays voisins, même le Mali a demandé à Maurice Freund d'étudier la possibilité de réouvrir des lignes sur le Mali.
Mais tout ne dépend pas de la volonté d'une coopérative de tourisme. On est bien d'accord.
Bien sûr que non. Et à Agadez, c'est la même chose.
Les auditeurs veulent participer à l'émission. Si vous le voulez bien, Jean Taglang et Diane Audrey Ngakou, vous êtes avec nous. Vous nous appelez, les voisins et les voisines, au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Une voisine nous appelle de Dakar. Bonjour Nafissatou.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les auditeurs.
Nafissatou, vous vivez dans un pays qui est très visité par les touristes, le Sénégal. Vous nous appelez en tant que touriste ou en tant que professionnel du tourisme ou citoyenne d'un pays très touristique?
Voilà, je suis citoyenne d'un pays qui est le Sénégal, très visité, c'est vrai, par les touristes. Alors, si vous le permettez juste, je voudrais apporter un petit témoignage sur la Mauritanie, parce que j'ai vécu une dizaine d'années et je confirme qu'en tout cas, Ouagadougou, c'est vraiment un lieu où il faut aller. C'est mon royaume d'enfance. Et aussi dire qu'effectivement, j'ai aussi eu à visiter, parce que c'est pas très loin de l'Espagne, Las Palmas des Grandes Canarias. J'avais 9 ans, formidable, oui. C'est vraiment une île magnifique. Et surtout, je me rappelle donc de la résidence où j'étais, ça s'appelle la Riviera, c'était magnifique pour une petite fille de 9 ans.
Oui.
Maintenant, pour ce qui est du Sénégal, Emmanuel, alors vraiment, j'entends apporter un témoignage, il y a du potentiel. Dans ma ville, à 25 km de Dakar, il y a des choses à faire. Il y a un tourisme chez l'habitant à développer. Encore faudrait-il.
De quel lieu parlez-vous exactement, la petite côte?
À Rufisque.
D'accord, portes de Dakar, Rufisque. Hein.
Exactement, à 25 km de Dakar, absolument. Et nous avons des kilomètres de plages. Évidemment, il faut les restaurer, il faut améliorer la voirie. Si on veut que les touristes viennent en toute sécurité, il faut améliorer les infrastructures. Il faut aider les populations à pouvoir dignement accueillir les touristes. Et cela passe évidemment par une implication au plus haut niveau des autorités communales, mais aussi des autorités des ministères. Parce qu'on fait partie des premières 4 communes du Sénégal avant indépendance. Donc on votait avant tout le monde. Et ça, c'est vraiment important. Il y a des lieux magnifiques à visiter.
Oui, il y a un centre-ville qui est très joli à Rufisque. Mais Rufisque, en fait, a une mauvaise position, trop près de Dakar, finalement. On ne fait que passer à Rufisque. C'est bien dommage.
Alors oui, c'est bien dommage, mais il y a des choses à développer. Alors, si on ne veut pas seulement passer, il y a aussi à 750 km de Dakar, il y a Kédougou, avec les chutes de Dindi Fello, mais extraordinaire.
Diane Audrey, vous connaissez?
Oui, exactement. Ouais. Et là aussi, à visiter, parce qu'il y a du potentiel, mais encore une fois, il faut que nos autorités appuient le tourisme chez l'habitant, il faut qu'on développe nos voiries, il faut que les infrastructures soient développées, il faut que les populations aient envie davantage d'accueillir chez eux les touristes.
Et ce n'est pas tout à fait la politique qui a été choisie par le gouvernement sénégal, il faut bien le dire, qui est quand même plutôt un tourisme assez classique, sans parler de tourisme de masse, mais c'est plutôt le tourisme dont vous parliez, Jean Taglang, qui n'est pas un découvert vraiment à la découverte.
Je partage tout à fait ce qui a été dit. Et d'ailleurs, on peut rappeler que le Sénégal fait partie des premiers pays à avoir développé le tourisme lié à la population. C'est les campements intégrés de Casamance des années 70 étaient tout à fait dans cet esprit-là. Hein. Et c'était vraiment du campement organisé par les villageois pour les touristes.
Et puis il y a maintenant
c'était les villageois
tourisme...
qui géraient.
Il y a maintenant un tourisme plus confidentiel sur le fleuve Saloum, mais je ne sais pas quelle est l'intégration économique des populations.
Oui, je ne peux pas répondre. Non. Je ne sais pas.
Merci en tout cas, Nafis Atou, de nous avoir appelé. Vous pouvez continuer de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Je vous lis le message d'un voisin à Bukavu, à l'est de la RDC. On a la ligne téléphonique est compliquée aujourd'hui. Voici ce que nous dit Anders Hill. J'ai visité la région des Grands Lacs notamment. Les paysages sont magnifiques autour du lac Kivu, je confirme, c'est sublime. Le potentiel touristique est très important sur le continent de ce fait, mais évidemment on manque d'infrastructures malheureusement, ce qui empêche l'essor de cette pratique. Il faut aussi mettre en valeur l'écotourisme qui promeut les cultures et populations autochtones et contribue au développement. Et puis, il faut aussi le dire, l'est de la RDC, il y a une situation géopolitique compliquée, à la différence du Rwanda qui a aussi cette fenêtre sur le lac Kivu. Diane Audrey Gako, vous connaissez les deux côtés du lac Kivu ou pas?
Moi, je ne connais pas les deux côtés, mais je connais la vue du côté du Congo vers le Rwanda. Et c'est magnifique. Et dans mon cas, si je n'avais pas une sœur qui était médecin dans cette zone, je ne serais peut-être pas allée.
Et oui. Parce que
c'est dangereux. C'est aussi de ce que les médias disent, en tout cas. Parce que c'est aussi compliqué d'accès. Et même quand vous arrivez à Kinshasa, quand vous dites que vous souhaitez aller dans cette zone-là, tout le monde vous déconseille. Il faut avoir beaucoup de courage pour sauter ou franchir le cap.
Sur le tourisme responsable dont on parlait, est-ce que le tourisme intra-africain pourrait donner naissance à un autre type de tourisme responsable? Parce qu'on dit, on dit toujours, plus on est loin, moins on a confiance, plus on est méfiant. Alors est-ce qu'on pourrait créer une autre forme de tourisme responsable à partir de touristes africains sur le continent africain?
Moi, de mon côté, je pense sincèrement que quand vous êtes africain et que vous vivez en Afrique, vous avez très peu envie d'aller chez l'habitant. C'est depuis que moi je vis au Cameroun, quand j'étais en France, je trouvais la pratique très intéressante. J'allais chez l'habitant, j'adorais ça, c'était mon plaisir, découvrir les cultures et compagnie. Mais la vie est tellement dure chez nous que lorsqu'on va en vacances, on veut juste être dans un bon hôtel, un bel hôtel à prix abordable, avec tout le service. On veut juste se détendre.
C'est ça. Et pas les enquiquinements qui peuvent aller avec.
Voilà, c'est ça. On n'a pas envie d'aller puiser l'eau, faire notre compote. Non, parce qu'on le fait déjà chez nous.
Vous avez un langage de vérité, Diane Audrey Ngako. On donne la parole à une voisine qui a posté son message sur WhatsApp.
Bonjour les voisins. J'ai déjà fait des visites dans le parc, à la source du Nil et au musée national ici au Burundi. Je n'ai jamais été à l'extérieur du pays pour faire visite. Cela ne signifie pas que je n'ai pas besoin d'y être un jour. J'ai besoin de visiter par exemple le Kilimandjaro, l'une des plus hautes montagnes d'Afrique, les pyramides en Égypte, le delta du Nil au Caire et ainsi de suite. À cela, je tiens à remercier celui qui a créé l'Internet parce que ça m'aide à avoir une idée. Le tourisme en Afrique, ce serait pour moi créer des sites Internet sur lesquels je pourrais trouver les éléments les plus intéressants de certains musées nationaux des pays africains. Et ça serait très bon. Merci.
Désolé Charles, au Burundi, vous n'êtes pas une voisine mais un voisin. Mais en tout cas un message intéressant Diane Audrey, oui. Parce qu'il y a beaucoup de voisins sur le continent africain à l'heure actuelle, par manque de moyens, par manque de temps, par manque de visa, qui ont d'abord envie finalement de rêver en découvrant virtuellement leur continent.
Tout à fait. Et ce que je trouve génial et dont on n'a pas parlé, c'est notamment le tourisme lié au mariage, tout ce qui est lune de miel. Et au Nigeria, il y a une grande industrie du mariage. Et beaucoup de pays africains, notamment le Maroc et l'Afrique du Sud, se disputent ce marché-là. Il faudrait que maintenant, quand vous êtes Nigérian, que vous faites un mariage à 100 000 euros, hein, c'est la moyenne, le prix moyen, et ben vous veniez découvrir Cape Town ou Marrakech. Et quand je vois aujourd'hui sur Internet, tout le monde va aller à Zanzibar, en Tanzanie. Zanzibar, c'est une destination beaucoup apprécié des Occidentaux qui allaient faire un safari en Tanzanie et terminer après à Zanzibar. Ouais. Mais aujourd'hui, tous les Africains, et je vois dans mon entourage aussi, ou même les articles...
D'une classe aisée et qui...
D'une classe moyenne, pas spécialement aisée. C'est
et
moins
qu'est-ce
cher.
Qui fait rêver les touristes africains à Zanzibar? Alors, c'est très joli. Moi, j'y suis allée il y a très très longtemps. D'accord. L'océan
plage,
indien
l'océan,
est très beau.
La couleur.
La couleur de l'eau.
Un peu farniente. Et c'est surtout pas vraiment cher comparé à certaines destinations.
Nous, Européens, qui pensions que les Africains n'étaient pas intéressés par la plage. C'est en train de changer.
Ah bah si, on sait peut-être pas nager pour certains, mais on adore regarder et s'amuser. Mais oui, il y a aujourd'hui de plus en plus, et puis la diaspora aussi, ne veut plus aller dans son pays d'origine. Avant, c'était ça. Je suis sénégalaise à Paris, je vais en vacances au Sénégal. Et le côté aussi melting pot qu'on a africain à l'étranger, fait qu'on a envie de découvrir la culture de l'autre, parce que ça nous parle. Et avec Visiter l'Afrique, notamment, on l'a vu, et on a vu ce phénomène naître aussi. Des gens qui n'ont plus spécialement envie d'aller en vacances dans leur pays, mais vont découvrir d'autres pays et sont contents. Parce que c'est bon et c'est beau d'être un jeune Africain et de visiter son continent.
Aujourd'hui, un jeune Africain tel qu'on les découvre sur votre compte Instagram, qui rencontre d'autres jeunes Africains qui découvrent leur continent, mais qui viennent de pays différents, on voit bien qu'il y a une espèce de communauté encore petite, naissante, importante, qui a envie de partager des expériences en mode langage numérique aussi.
Tout à fait. On a des. Et puis même, il y a des communautés qui se créent, des communautés de femmes africaines qui voyagent seules.
Impensable il y a quelques années, sauf des femmes commerçantes.
C'est ça. Et elles le mettent en avant, des personnes qui voyagent avec un sac à dos. C'est pas courant. Je veux dire, c'est très courant de prendre un sac à dos et d'aller faire un trek en Amérique latine. Ça l'est moins en Afrique. Et on le voit de plus en plus, des personnes qui font le continent en vélo aussi. Et c'est aussi pour ça que nous, on a créé un groupe Facebook. C'était de se dire qu'avec le groupe, si vous allez dans un pays du continent, vous pouvez dire, je vais être à Abidjan de telle date à telle date. Et une personne de la ville peut vous prendre contact avec vous et vous rencontrer.
Et voilà, de quoi se faire de nouveaux voisins, de nouveaux amis. Le phénomène Airbnb, alors vous le disiez, nous en Afrique, on a horreur d'aller chez l'habitant. Mais néanmoins, le phénomène Airbnb est une réalité aujourd'hui.
Et ça prend et sort.
Louer une chambre, louer un appartement sur place chez des gens qui ne sont pas des professionnels du tourisme, dans les villes du moins.
Moi aussi, je le fais. Alors quand vous êtes chez vous et que vous recevez des personnes, c'est bien, ça vous permet de voyager.
Oui, et puis c'est pas cher.
Et vous gagnez de l'argent. Oui. Et vous êtes content, vous n'avez peut-être pas accès à un visa pour aller au Japon, bah vous recevez une personne du Japon, vous échangez, c'est un partage de culture qui nourrit tous les deux. Mais dans l'autre sens, je suis pas très sûre que ça fonctionne. Parce qu'on a besoin de rêver. Enfin, le Airbnb réussit aujourd'hui parce que durant des années, il y a eu plusieurs types de tourisme. Et qu'aujourd'hui, on a un stade où les personnes vivant en Occident ont besoin de se rapprocher de l'essentiel.
Aujourd'hui, juste en un mot, il y a un pays pour vous, modèle, qui a tout compris dans l'équilibre, dans la façon de percevoir, de concevoir son tourisme, dans l'accueil des étrangers sur le continent.
Alors, moi, je dirais l'Afrique du Sud et le Maroc, parce qu'ils ont plusieurs marques. Si on regarde le Maroc, Essaouira, Marrakech, Casablanca ont différents types de tourisme
et ont su conserver une vraie identité culturelle en même temps.
C'est ça.
Jean Taglang, vraiment, il nous reste quelques secondes.
Oui, pour les pays qui ont su, je suis assez d'accord sur cette liste de pays. Ce sont des pays qui ont d'abord des ressources importantes et qui ont une tradition d'accueil qui est assez ancienne. Donc, c'est des pays qui ont un avenir dans le tourisme, ce qui est certainement important.
Votre réponse
important.
À vous en quelques secondes, Jean Taglang, s'il vous plaît. On arrive vraiment à la fin de l'émission,
alors,
nous sommes en direct.
Sur ma réponse, je dirais que presque tous les pays, enfin ceux que je connais en Afrique, sont des pays qui pourraient développer un tourisme et sont prêts et souhaitent le faire. Maintenant, les conditions ne sont pas encore réunies et je pense qu'il faut garder l'espoir quand même pour dire que ces conditions seront réunies dans un temps proche.
Merci à vous, Jean Taglang du Point Afrique. Merci à vous, Audrey Ngako, visitezlafrique.com, le site internet et puis bien sûr les réseaux sociaux, le compte Instagram. Merci à toute l'équipe. Demain, 7 milliards de voisins, on restera sur des expériences, pas vraiment du tourisme. On va parler de la mode des bootcamps et du survivalisme. Comment survivre dans un milieu hostile, apprendre à se débrouiller avec rien, manger des aliments qu'on trouve sur place et faire du feu.